Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans notre curiosité du soir. Bonsoir Thomas.
Salut Sidonie, ça va bien?
Vous
m'avez
soir,
manqué.
Soir.
Vous m'avez manqué hier.
C'est vrai?
Bah ouais, il y avait du foot et moi je savais pas quoi faire.
Vous mentez, vous regardiez le foot avec vos copains.
C'est pas totalement faux. Salut à vous les curieux, on attend vos réactions, vos appels au 3210 sur rtl.fr ou sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, la curiosité. RTL au programme, les bonnes manières. On va réviser les règles de la politesse, apprendre à dire bonjour, tiens par exemple. Et oui, ça peut s'apprendre. Et voir comment on se salue sur les 5 continents.
Demain, la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, fêtera ses 63 ans, 7 mois et 3 jours de règne. Elle va battre un record, ce sera le plus long règne de toute l'histoire de la monarchie britannique. On vous racontera son incroyable destin.
Et tout de suite, attention aux envahisseurs.
Les envahisseurs.
RTL.
Ces êtres étranges venus d'une autre planète.
Jusqu'à 22h.
Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers.
La curiosité est un vilain défaut.
Marc Giraud.
Les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouvera.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Cet été, vous avez peut-être croisé sur les routes notre naturaliste préféré, Marc Giraud, avec une tapette dans la main, en train de suivre... Ah ben non, c'est plutôt un, je sais pas, un petit...
Un sabre laser. Comme David Vincent, oui, c'est ça, dans la série américaine.
Mais non, Marc Giraud, vous ne tuez pas les envahisseurs.
Moi, j'ai une paire de jumelles, et c'est vrai que je vais dans les coins sombres le soir, et à l'affût des blaireaux et autres, et quand des gendarmes me rencontrent, ils ont du mal à croire que je suis là pour regarder des blaireaux. Voilà.
En revanche, nos auditeurs ont peut-être traqué les frelons asiatiques cet été, claqué le beignet des moustiques tigres, pêché des écrevisses américaines ou encore couru après des kangourous. Bah oui, parce que tout ça, ça se passe en France. Que sont et que font ces espèces en France? D'où viennent-elles? Pourquoi les qualifie-t-on d'envahisseurs, d'invasives? Sont-elles dangereuses pour notre écosystème et pour l'homme? Vous voyez, on a beaucoup de questions encore à vous poser, Marc Giraud. Et on vous souhaite la bienvenue.
Bonjour à tous.
Alors, ce frelon asiatique, il arrivait quand, où et comment en France?
Alors, c'est dans les années 2004, et en Lot-et-Garonne, avec des poteries chinoises, hein, c'est ce qu'on dit et ce qu'on pense, voilà, et ça va très vite.
Plein de frelons arrivent dans une poterie ?
Alors, il y avait au moins une reine fécondée, c'est l'essentiel. Il suffit d'une reine fécondée, elle fonde sa colonie, elle pond, les premières ouvrières l'aident à nourrir les autres larves, et de fil en aiguille, après il y a des mâles et tout ça, et ça fait une colonie. Et de colonie en colonie, il y a des vols nuptiaux, des accouplements, puis ça peut envahir, et là ça envahit jusqu'aux Pays-Bas.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rend compte en France qu'on a un frelon asiatique, on ne peut pas enrayer l'invasion, c'est-à-dire qu'à un moment on ne peut pas dire stop.
Ah là c'est foutu. A priori, hein, on fait ce qu'on peut, mais ça ne sert à rien du tout, donc autant prendre son mal en patience, mais bon, c'est pas une espèce dangereuse.
On ne peut rien faire.
Non, et comme vous l'avez dit au début, je les ai vraiment observés cet été. C'est un bel animal, hein, le frelon.
À quoi il ressemble, tiens?
Alors, ça ressemble au frelon. Alors, le frelon d'Europe, c'est une guêpe géante. C'est exactement pareil, mais beaucoup plus gros. C'est noir rayé de jaune, rayé de noir. Je le fais dans le bon sens. Et le frelon asiatique, qui en fait s'appelle le frelon à pattes jaunes, hein, on dit asiatique, mais il est un peu plus petit, il est noir, il est beau, il est vraiment beau. Je l'ai photographié, je l'ai beaucoup observé parce que cette année, les pommes sont tombées assez précocement, donc il y avait plein de frelons partout, des frelons asiatiques, et en fait j'ai vu que les frelons d'Europe attaquaient les frelons asiatiques, donc ils ont déjà des prédateurs chez nous, donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Hein.
Et donc ça ressemble à quoi un frelon asiatique? C'est tout noir, c'est ça? C'est comme un petit bourdon?
C'est un peu plus, alors c'est plus gros qu'une guêpe. C'est plus petit qu'un frelon, c'est entre les deux, ça fait 3 cm en gros. Hein.
Mais vous êtes rassurant, mais je croyais que sa piqûre était quand même plus dangereuse pour l'homme. C'est ce que nous disait le représentant des apiculteurs français il y a quelques mois dans cette émission, disant que...
Vous pouvez faire un choc anaphylactique.
Oui, voilà, on peut le faire avec tout, hein, mais il faut raison garder. J'ai fait une émission une fois avec Pelou, l'urgentiste.
Patrick Pelou.
Et dans toute sa carrière, il n'a jamais vu de choc anaphylactique. Il n'en a vu qu'une fois à cause d'aliments. Donc cette histoire de choc comme ça, on en parle beaucoup, on les voit quasiment jamais, il faut raison garder. L'animal le plus dangereux, c'est plutôt l'abeille domestique parce que c'est celle qu'on contoie, c'est celle qui a le plus de poison, en fait, de venin.
Marc Giraud, ça ressemble à quoi un nid de frelon asiatique?
Un nid de frelon, si vous connaissez. Oui, alors c'est plutôt en haut des arbres, hein. Ils aiment bien les hauteurs. C'est gros, ça peut faire presque un mètre quand même, hein. C'est cylindrique. Il y a du monde dedans, hein. Il y a 2000 bêtes qui bourdonnent.
C'est très bruyant.
C'est bruyant. Moi, j'ai un nid de frelons dans mon jardin. Ça ne me gêne pas outre mesure. Je les entends, quoi. Mais ce n'est pas agressif, contrairement à ce qu'on croit, évidemment.
Sauf si on les ennuie.
Voilà, si on s'assoit dessus, on a un petit problème. Mais sinon, non, ce n'est pas agressif. Ça vit sa vie. C'est tout. Et encore une fois, l'abeille a un peu plus de venin. Une piqûre de frelon, de guêpe ou d'abeille, ça fait très mal. C'est vrai, mais ce n'est pas plus dangereux que ça. Voilà.
Je dois vous avouer que j'ai cru voir ça dans mon jardin, dans les Landes cet été. Et ma grand-mère m'a dit, on va les ébouillanter. Elle est partie avec un grand seau d'eau bouillante. Et bon, c'est pas sérieux,
ça.
Non
bah, c'est-à-dire que là, si on commence à les attaquer, ils savent se défendre.
Qu'est-ce qu'il faut faire
si touche pas ma mémé.
S'il y a un nid de frelon, vous avez décidé de vivre avec.
Voilà.
Si on veut s'en débarrasser, il faut appeler les pompiers, ils viennent.
Ils viennent. C'est pas une espèce protégée, et ils ont le droit. Mais est-ce qu'il faut vraiment s'en débarrasser? De toute façon, ça sert à rien. Les pièges, en fait, piègent aussi les insectes utiles et font aussi mourir les guêpes et autres qui nous débarrassent d'autres insectes. Enfin, il y a un équilibre dans la nature. Pourquoi est-ce qu'il faudrait tuer celui-là parce qu'il vient d'ailleurs? Ça frise un petit peu la xénophobie.
Et pourtant, on a mis le doigt sur. C'est pas la bonne expression quand vous allez savoir de quoi je parle. Mais une plante carnivore qui est capable de tuer les frelons asiatiques. On a découvert ça. Au jardin des plantes de Nantes, c'est ça?
Oui, ils ont leurs prédateurs dans leur pays, mais cette plante carnivore, il n'y en a pas beaucoup chez nous, donc c'est pas ça, il faudra en planter partout, enfin mettre des serres partout. Le frelon, moi j'ai observé que le frelon d'Europe le tuait, il a d'autres ennemis, un rapace qui s'appelle la bondrée apivore qui mange tout ce qui pique, les guêpiers, c'est des petits oiseaux multicolores magnifiques qui mangent ce genre de choses. Alors ils tapent dessus pour faire sortir le dard, ils les mangent.
Donc vous dites qu'il faut faire confiance à la nature, en fait.
Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, on dit espèce invasive, on a très peur, mais c'est un courant historique depuis toujours. Le coq gaulois, il est asiatique. Ça vient des forêts asiatiques, le coq. Vous êtes en pleine jungle en train d'essayer d'observer un tigre et vous entendez un cocorico très familier. C'est un coq sauvage. Ils ont été importés chez nous, comme les lapins qui venaient plutôt du sud d'Espagne, etc. Ils se sont acclimatés et ça va bien.
Dans un instant, on part à la rencontre du lapin de Garenne en Australie et du kangourou en France. On vous raconte leur histoire dans un instant.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. 2h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Nous sommes avec Marc Giraud, notre naturaliste préféré. Vous êtes bestiologue, c'est comme ça que...
Oui, j'aime bien dire ça, oui. Ouais.
Et vous passez votre été, par exemple, à observer les animaux
Alors,
en
dehors de RTL, parce que vous savez, je faisais GPS, voilà. Ouais. Mais j'ai fait une partie en différé parce que j'avais des photos et un doc à faire et la nature n'attend pas. Donc, j'étais dans le Limousin. C'est là que j'ai observé des frelons. Et oui, je passe une bonne partie de ma vie dehors. Donc, j'arrive tout bronzé. On croit que j'étais en vacances, mais non, j'étais au boulot.
Alors, on s'intéresse ce soir à ce qu'on appelle les espèces invasives. On a commencé l'émission avec le générique de la série américaine Les Envahisseurs. Et alors, ce qui est drôle, c'est les espèces voyageuses. Le lapin de Garenne en Australie. Alors, comment il se retrouve en Australie?
On l'a un petit peu importé. Hein.
Ah oui.
Bon, ça nage pas trop mal, mais quand même. C'est un chasseur.
Il n'est pas monté par hasard dans un avion et il s'est retrouvé en Australie.
Non, ça peut arriver.
Pas
ça,
dans une poterie non plus.
Hein. Et, oui, ça arrive que justement par hasard dans un avion. D'ailleurs, dans certains pays, quand vous prenez l'avion, on vous balance de l'insecticide, justement.
C'est pas très agréable.
Voilà. Non, c'est pas très agréable, c'est pas très sain, mais ça ne véhicule pas au moins les maladies.
Et donc, le lapin de Garenne.
Voilà, le lapin de Garenne, c'était en 1859, un chasseur qui avait envie de ramener le gibier de chez lui d'Europe, quoi. Il a lâché 12 couples de lapins, ce qui est énorme. Quand on sait qu'un seul couple de lapins en 3 ans, hein, ça peut faire 13 millions de descendants.
Quoi ?
13 millions, c'est exponentiel. Il y a 5 portées par an. Donc chaque lapin, au bout de 3 mois à peu près, il est déjà mûr sexuellement. Ça va vite, ça se reproduit comme
mois,
des lapins.
Ouais.
Et donc, ne faisons pas les gestes que Gérald Salon, notre producteur, fait juste à côté de nous. C'est
moi,
pas
ça a été très rapide.
C'était assez... cette émission.
Voilà. Vous avez un élevage de lapins, Gérald ? Oui, d'accord. Mais alors, ces lapins de Garenne qui se retrouvent en Australie, ils s'échappent de leur enclos suite à un incendie. Et du coup, ils vont être à l'origine d'une des pires catastrophes qu'ait connue l'Australie. De quoi est-ce qu'on parle ?
Oui. De l'invasion des lapins, donc qui ont tout mangé, la végétation de là-bas, qui n'était pas... Le problème des espèces invasives, c'est qu'elles arrivent dans un écosystème qui n'est pas habitué à eux. Donc, si c'est un prédateur, par exemple, comme le frelon qui mange les abeilles de chez nous ne sont pas habituées à se défendre. Et là, la végétation contre les dents du lapin.
Ah, mais c'est là, oui, d'accord.
Quand c'est très, très nombreux, c'est comme les fourmis, ça y va. Hein.
Et alors, ils ont fait quoi, les Australiens, du coup ?
Les Australiens, ils ont fait un mur gigantesque, ils ont fait des campagnes, ils ont introduit la myxomatose. Et au début, ça a flingué 95% des lapins. Mais il y a eu une complicité entre le virus de la myxomatose et le lapin. Ça arrive entre le parasite et son hôte. Il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Et les lapins qui résistaient à la myxomatose, c'est eux qui ont résisté, qui ont fait des petits. Et finalement, ça n'a servi à pas grand-chose. On a introduit le renard pour une histoire de chasse et pour qu'il tue les lapins. Mais le renard, que ça soit un lapin ou un animal, un marsupial d'Australie, il s'en fout. Il mange tout. Donc, ça a été une autre catastrophe. Et finalement, à chaque fois qu'on introduit une espèce qui n'est pas faite pour un écosystème, il y a catastrophe.
Aujourd'hui, les lapins de Garenne en Australie, ça donne quoi ?
Eh bien, il y en a toujours et il y en aura toujours. On ne s'en débarrassera pas. C'est trop grand.
C'est pour
ils le font à la moutarde ou ils ont trouvé une autre recette ?
Là, ils ont une indigestion, là, je crois.
C'est pour ça que les Australiens nous ont envoyé des kangourous ? Ils ont essayé de se venger ?
Alors ça, ce n'est pas eux. Ils ne l'ont pas fait. C'est des petits kangourous qui sont échappés d'un parc zoologique près de Rambouillet. Et maintenant, on en voit en forêt de Rambouillet, on se balade.
En liberté.
Alors, c'est pas le grand kangourou Skippy, hein, c'est un plus petit qui s'appelle le Wallaby.
Il a quand même une poche et tout, il ressemble à un
kangourou. Marsupial avec les petits, et puis il s'est adapté, donc il résiste aux hivers, tout ça. On voit des kangourous, on voit des perruches à Paris, hein, des perruches à collier, il y en a des milliers maintenant au parc Montsouris, on en voit au bois de Vincennes,
Pourquoi
on en voit à Lille.
Le parallèle avec les perruches parce que.
Parce qu'elles sont échappées de captivité, pareil. Ouais. Donc il y en a plus de 10 000 à Rome, il y en a 50 000 à Londres, et il y en a à Bruxelles, enfin il y en a partout. Et on voit maintenant des perruches, moi je me crois en Amazonie, j'entends un drôle de cri, et je vois des perruches.
Et Marc Giraud, voilà. Les kangourous, ça se reproduit comme les lapins de Garenne ou pas ?
Ça va un peu moins vite, mais la femelle, elle est quand même très très productive, puisqu'elle peut avoir 3 générations dans le ventre en même temps. Elle a un petit dans la poche. Elle a un tout petit, ça naît presque embryon à la mamelle, et elle peut être fécondée en même temps, donc 3 générations. Donc c'est à la chaîne.
Et si on croise des kangourous, des petits wallabies,
c'est pas dangereux. Hein,
c'est pas dangereux. Les caresser ?
C'est pas agressif avec l'homme.
C'est farouche. Oui. Non, c'est pas agressif. Alors le grand kangourou, lui, a un coup de patte, ça peut faire mal. Et puis les mâles sont agressifs quand ils sont en rute. Mais là, il y en a pas. C'est des petits, donc on est tranquille. Bon. En général, les animaux, quand on va vers eux, ils vont dans l'autre sens. Hein. C'est mon problème. Hein. Quand je veux prendre des photos,
mais attention, il y a Marc Giraud.
Mais même les frelons asiatiques, moi, j'ai couru après tout l'été. J'en ai pas eu beaucoup. Hein.
Mais vous avez réussi quand même à faire quelques images
trop.
Et quelques photos.
Il y a à 4 pattes dans les pommes écrasées. Ouais.
Ah, jolie image. Il n'y a pas que les terres qui sont envahies, mais aussi les mers, les cours d'eau, leurs berges. Dans un instant, allez, tiens, on part à la rencontre des ragondins, des tortues de Floride et des écrevisses américaines. Ben oui, on a hâte, ça donne faim un peu les écrevisses.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Ils sont parmi nous. Marc Giraud, notre naturaliste préféré à la curiosité, les a vus. Ces espèces introduites par l'homme, ces animaux dont
on
parle, ces envahisseurs.
On sent la spade, ce générique.
Le ragondin nous envahit, Thomas Hugues. Mais oui, depuis quand il a été introduit en France ?
Ça date du 19e siècle, là, c'était le commerce de la fourrure. Et puis bon, ça a périclité.
C'est-à-dire qu'on faisait de la fourrure de ragondin ?
Voilà, oui.
Enfin, le ragondin, de la fourrure qu'on utilise pour
des
manteaux.
Le nom latin de ragondin, c'est Mio Castor. Et souvent, quand je fais des sorties nature, on me dit « Oh, un castor ». Ben non, c'est, à part la queue plate, ça se ressemble beaucoup. Hein. Les castors, on n'a rien contre, et le ragondin, on a quelque chose contre, parce qu'il vient d'Amérique, tout simplement. C'est pareil, c'est toujours un peu xénophobe, alors que maintenant il y en a partout, il fait partie de notre faune. On les observe facilement, c'est pas farouche.
Ils sont où en France ?
Ah ben, j'en ai même vu à Bercy, à Paris, on a oublié de l'enlever dans un petit plan d'eau. Donc il y en a partout maintenant, hein. Les ragondins, il y en a partout.
Parce que ça vit dans l'eau, les ragondins ?
Oui, c'est assez aquatique, ça mange les plantes aquatiques, et son prédateur, c'est le jaguar. Donc comme il y en a assez peu chez nous, c'est pour ça qu'il prolifère. Voilà.
Mais donc vous nous avez dit qu'il a été introduit pour sa fourrure, c'est ça ?
Oui.
Mais ce commerce de la fourrure, il se pratique plus, j'imagine.
Bah ouais, voilà, c'est pour ça qu'on les a relâchés, ou alors ils se sont échappés, un peu comme les perruches. Il y a des animaux qui s'échappent. Et il y a plein de causes de l'invasion des animaux. Il y en a deux qui sont assez marrantes. C'est le raton laveur. On a quelques ratons laveurs chez nous, qui est un animal américain, qui serait venu avec les Américains justement pendant la guerre. Et pendant le débarquement, sous les coques des bateaux, il y avait un petit animal qui s'appelle la crépidule. J'appelle la crépidule fornicatrice parce qu'elle a des drôles de mœurs. Et c'est ça qui a envahi les bandes d'huîtres et qui mange les huîtres aujourd'hui. Et c'est venu en grande partie en même temps que le débarquement. Et en fait, c'est nos transports, le ballast des bateaux, par exemple.
C'est-à-dire, les Américains ne les ont pas amenés.
Ils n'ont pas fait exprès.
Ils n'ont pas fait exprès. Non, c'est des animaux qui se glissent dans les cales.
Ah oui, dans les ballastes des bateaux, qu'est-ce qu'on trouve?
On prend des tonnes d'eau pour l'équilibre de l'eau dans un bateau. Il fait des milliers de kilomètres, il change de continent et là, il lâche toute l'eau qu'il a prise ailleurs. Et là-dedans, il y a des centaines d'espèces. On a compté plus de 300 espèces dans un ballast. Donc ça bouge tout ça.
Sidonie, vous avez eu une petite tortue de Floride quand vous étiez petite?
Oui.
Et oui. Et le problème, c'est que ça grandit,
oui,
c'est ça?
À un moment, on est un peu embêté.
Qu'est-ce qu'elle devient,
les
tortues
après.
De Floride?
Un reptile, ça grandit toute sa vie. Donc, au bout d'un moment, l'aquarium il est trop petit. Et les gens, pensant bien faire, les mettent dans la nature en se disant qu'elle va se débrouiller. Et effectivement, et hélas pour les autres tortues, c'est qu'elle se débrouille très bien, la tortue. Elle peut vivre pas 100 ans, mais presque, plus de 70 ans. Et elle rentre en concurrence avec nos tortues sauvages à nous, qui s'appellent les cistudes, qui sont aussi aquatiques. Elles sont beaucoup plus fortes, elles peuvent manger leurs œufs. Donc, c'est un gros, gros problème. C'est le gros problème des nouveaux animaux de compagnie.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors si on ne veut pas la garder? Il faut l'envoyer où, la tortue?
D'abord, faut pas l'acheter. Voilà, c'est pas un animal de compagnie. Une tortue n'a jamais été un. Alors c'est mignon.
Pourquoi c'est devenu un animal de compagnie quand on y pense? C'est aberrant d'avoir une tortue dans un bocal, dans sa chambre, quoi.
Faut pas le sortir comme le chien. Ça griffe pas comme le chat. Pour un enfant, c'est mignon. C'est comme un poisson rouge. C'est pas trop encombrant, etc. Mais au bout d'un moment, ça grossit et c'est une responsabilité. Un animal vivant est une responsabilité. Je suis absolument contre ce commerce d'animaux exotiques.
Quels autres animaux
Des animaux exotiques, il y en a plein. Des piranhas, par exemple. Il y en a plein, les fleuves d'Europe ou ailleurs, de gens qui relâchent des piranhas, qui ne sont pas tous dangereux, mais quand même. On a déjà parlé d'alligators dans les égouts. Ça, c'est beaucoup une rumeur, mais on en a quand même trouvé un. Donc, il y a des animaux comme ça, les gens les relâchent. Les écureuils de Corée, par exemple, qui sont plein de puces, plein de tiques.
C'est un animal de compagnie, ça aussi,
ouais.
En France.
Oui, c'est mignon, c'est très agile. Ça se reproduit très vite, comme c'est un rongeur. Et ça transporte la maladie de Lyme. Donc, c'est dangereux aussi.
Et les écrevisses américaines, depuis quand elles ont débarqué, si j'ose dire?
Alors ça, c'est dans les années 70 en Espagne. C'est l'écrevisse de Louisiane. C'est pareil, c'est très, très, très résistant. Ça sort facilement de l'eau, ça peut traverser les routes. Ça peut rester une semaine moitié desséchée, on la remet dans l'eau, ça pond. Enfin bon, c'est costaud, quoi. Et ça envahit et ça prend la place de notre écrevisse à nous. Je ne vais pas faire cocorico, mais on en a une qu'il faudrait bien garder. Et elle est beaucoup plus forte et elle envahit tout. Donc c'est un gros, gros problème en Brenne, dans toutes les zones humides, en fait.
Est-ce que ça intéresse les consommateurs? Est-ce que ça peut être un nouveau plat
trop,
pour nous?
Justement. Elle est un peu vaseuse.
Elle n'est pas bonne?
Pas trop. Non.
Vous l'avez goûtée?
Non, celle-là, je n'ai pas goûté. Non.
Bah alors, Marc Giraud.
Beaucoup moins bonne que l'écrevisse française, avec des soucis sur les berges, c'est ça? Comme le ragondin, en quelque
sorte.
Oui,
elle peut faire des terriers, cette petite bête, de 4 mètres de profondeur, quand même. Donc, ça creuse, Et oui, ça fait des petits dégâts.
Dans un instant, Marc Giraud nous expliquera qu'à cause du réchauffement climatique, il n'y a pas que le moustique tigre qui va s'installer dans nos frontières. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
À la découverte des espèces invasives, ces envahisseurs qui viennent d'un peu partout sur la planète et qui ont débarqué en France ou en Europe. Tiens, par exemple, ce grand poisson aux dents impressionnantes, on le trouvait dans les eaux tropicales ou subtropicales. Voilà que le barracuda est aussi présent dans le nord de la mer Méditerranée et même sur les côtes atlantiques, Marc Giraud.
Oui, il y a plein de poissons. Alors là, le réchauffement climatique, il y a plein de gens qui refusaient de le croire. Nous, les naturalistes, il y a longtemps qu'on voyait des oiseaux ou des poissons du sud arriver et le plus spectaculaire, c'est la Méditerranée. Alors d'abord, le canal de Suez a permis à des poissons de la mer Rouge de passer de l'autre côté. Mais il y a aussi le réchauffement et il y a plein de poissons aujourd'hui exotiques, multicolores. Vous allez à Port-Croux, vous voyez des girelles pan, c'est magnifique, c'est des poissons coralliens. Vous voyez des barracudas maintenant, ça y est, et des tas de poissons qui montent, qui vont en Atlantique et les chercheurs vont dans les filets des pêcheurs pour étudier justement ces poissons que les pêcheurs n'ont jamais vus. Donc on mange quelquefois des poissons totalement inconnu de chez nous parce qu'ils ont été pêchés chez nous.
Le barracuda, c'est un nom qui fait un petit peu peur comme ça. Oui. C'est un poisson dangereux qui peut menacer nos espèces, Marc Giraud.
Ah bah, c'est un gros prédateur. C'est une sorte de brochet en très long et en marin. Oui, ça mange bien. Oui.
Mais pour bien comprendre le phénomène du réchauffement, c'est-à-dire que c'est des poissons qui n'allaient pas aussi loin ou qui ne se rapprochaient pas de nos côtes parce qu'elles étaient trop froides, c'est ça ? Et qui, petit
oui,
à petit,
c'est ça.
Se sont dit qu'ils pouvaient avoir des... Enfin, j'allais dire avoir des enfants.
Oui, vous voyez, oui, se reproduire.
Nidifier, se reproduire.
Et... Voilà, oui, eux, à un degré près, tout change pour eux. C'est pour ça qu'on dit que si la planète se réchauffe d'un seul degré, ça change beaucoup de choses. Effectivement, ils trouvent les conditions qu'ils veulent. Il y a sur Terre, par exemple, une petite chenille très dangereuse, la processionnaire du pin, qui fait des espèces de gros de soie, et elle a des poils urticants, et ces poils volent, donc on peut les respirer, ça rentre dans les poumons, c'est très 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 mauvais. Il n'y en avait que dans le sud avant, maintenant il y en a jusqu'en Belgique. Donc les poissons, c'est exactement pareil. Plus les eaux sont chaudes, et plus les poissons d'eau chaude vont vers le haut. Et ceux qui sont coincés, c'est ceux du nord, c'est l'ours blanc. Lui, il a aucune échappatoire. Les animaux des montagnes, c'est pareil. Il y a des papillons qu'on voyait... juste en plaine, qui commencent à se voir en montagne parce qu'ils se sentent plus au frais. Donc tout est en train de changer.
Ça vous effraie, ce monde qui bouge, Marc Giraud ?
Ça va un peu trop vite, c'est ça le problème. Je sais que la nature va bien s'emporter, les humains pas forcément, parce que le vin, par exemple, parce qu'on n'a pas parlé des plantes, mais les vignes vont totalement changer. On pourra faire du Bordeaux et du Champagne en Angleterre, mais dans le Médoc, on fera du Balaouane ou autre chose.
On fait déjà de l'huile d'olive en Angleterre.
Voilà, presque. Donc, en Champagne, ils sont un petit peu paniqués, eux, à l'idée de perdre leur label ou leur possibilité de... Enfin, tout va être bouleversé, on ne se rend pas compte à quel point. Mais si je parle du vin, je pense que ça parle plus que de...
Restons dans du liquide et restons...
Ouais, voilà. Restons... Marquer un bon barracuda avec un verre de blanc,
c'est ça
peut être pas mal.
Voilà, c'est peut-être
restons... à consommer avec modération.
Restons sous l'eau et partons à la découverte de la Caulerpa taxifolia, surnommée, attention, ça sera beaucoup plus clair, l'algue tueuse, la peste verte, l'alien des mers.
Oui, elle nous a fait très très peur. Enfin, quand je dis nous, c'est la communauté scientifique ou naturaliste, parce qu'elle s'est échappée, elle, de l'aquarium de Monaco, tout simplement, peut-être par erreur, et elle a tout envahi.
Une algue qui s'échappe.
Oui, enfin, en vidant les eaux, oui. C'est simple. Hein, comme c'est une cellule, ça se multiplie facilement. Elle a envahi tous les herbiers qui sont précieux pour toute la vie. Elle étouffait tout. Et on a eu très, très, très peur parce qu'elle stérilisait tout.
Ouais, c'est ça, les images sous-marines.
Ah oui, l'algue tueuse.
On voyait plus que ça. Quoi, c'était...
Et ce qui nous rassure, c'est qu'aujourd'hui, elle est en train de régresser et de disparaître naturellement. Ce qui prouve que, de toute façon, tôt ou tard, il y a un nouvel équilibre qui se crée. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. À première vue, une espèce envahissante peut être très très nocive et au bout d'un moment, ça peut s'équilibrer.
Et aujourd'hui, Marc Giraud, cette algue, elle reste sagement dans son coin, elle est contenue
Elle régresse même. Alors, faut se méfier. Ah bah oui, parce qu'on a eu très peur et on ne sait pas. Alors, on pense que comme elle ne se reproduit pas naturellement, c'est peut-être une espèce de consanguinité végétale, on ne sait pas trop. On ne sait pas pourquoi elle s'en va. On ne sait pas, en fait.
Alors, si on parlait des grenouilles, parce que les grenouilles, bah, c'est typiquement français, c'est même un des plats que les Français consomment.
Vous l'avez déjà mangé, Thomas ?
Mais oui, j'en ai déjà mangé.
Attention avec les grenouilles.
Et les Anglais nous prennent pour des barbares parce qu'on mange des grenouilles. Alors, est-ce qu'il y a des grenouilles qui viennent d'ailleurs ?
Alors, les grenouilles qu'on mange, c'est souvent des crapauds. Hein. Je vous dis ça pour vous mettre en appétit. et quand on les élimine, les grenouilles, c'est des chasseurs de moustiques, donc on est envahi par les moustiques. Et là, on a été envahi par deux grenouilles. Une, c'est une énorme, énorme grenouille qui s'appelle la grenouille taureau, ou le wawaron, qui fait un bruit épouvantable, qui est venu en Gironde, et là, qui bouffe toutes les autres grenouilles. Et comme elle bouffe toutes les autres grenouilles, qui elle-même mangeait les moustiques, on est envahi par les moustiques. Donc cette grosse grenouille taureau, qui est un monstre, il faut deux mains pour la tenir, elle est assez dangereuse. Et il y a une autre grenouille qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle le xénope lisse. Alors ça, elle a été étudiée pour la biologie moléculaire et elle servait de test de grossesse. Dans le temps, maintenant, on a fait des progrès.
C'est-à-dire, on l'utilisait comment ?
C'est-à-dire, on lui injectait de l'urine d'une femme qui se demandait si elle était enceinte ou non. Et si elle était enceinte, la grenouille pondait au bout de 24 heures. Donc, c'était pratique. Alors, c'était assez barbare pour l'animal.
C'est extraordinaire comme technique.
Maintenant, on a fait des progrès. Donc, les gens du CNRS ont lâché leurs grenouilles dans les Deux-Sèvres dans les années 70. Et le problème, c'est que ça mange tout, ce petit animal.
D'accord. Et donc, vous nous expliquez qu'il n'y a plus assez de grenouilles pour manger les moustiques. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on a été envahi de moustiques tigres ?
Alors, les moustiques tigres, ça, c'est plutôt le problème du barracuda, c'est le réchauffement du climat.
Là encore.
Ça monte. Alors le problème, on aurait des moustiques tigres, bah, ça nous fait des piqûres comme les autres. Le problème, c'est qu'ils véhiculent la chikungunya. Il y a déjà eu des cas à La Réunion et en Italie. Et ça, c'est le symbole de ce qui nous attend avec le réchauffement si on ne continue de ne pas faire d'efforts, de conduire en voiture comme on le fait, etc. Parce que c'est ça, c'est notre vie quotidienne qui bousille la planète. Parce que comme on est des milliards, le petit geste individuel de tourner la clé de son moteur, c'est rien individuellement. Mais comme on est des milliards tous les jours, ça fait des gaz d'échappement, des gaz à effet de serre, etc. qui ont des implications sur nous-mêmes finalement. C'est un effet boomerang. Donc on pourrait bien être envahi par la chikungunya et la dengue d'ici quelques décennies à cause du réchauffement.
Ça ressemble à quoi un moustique tigre?
Bah, c'est un moustique, il a les pattes tigrées, c'est pour ça que...
Ça se perçoit à l'œil nu?
Ouais, si on regarde de près, ouais. C'est assez joli, hein, si on fait abstraction de tout le reste, c'est des petites chaussettes, des bas, genre bécassine, si vous voulez, puis une tache sur le dos, donc bon, c'est assez élégant aussi, c'est comme les guêpes, moi je trouve ça plutôt joli, voilà, ça n'empêche pas.
Hein. Alors comment on fait quand on en a chez soi, on en a dans son jardin, dans son salon, dans la chambre de son enfant, comment ça... On s'en prémunit de ce moustique tigre.
Alors, il faudrait éviter qu'il se reproduise. Il faut éviter surtout tout ce qui est flaques d'eau, écuelles, etc. Et ils ont été transportés beaucoup avec des pneus, des stockages de pneus, parce que le pneu, ça a une telle forme que l'eau reste tout le temps. Donc, si une femelle pond dans l'eau, parce que les femelles pondent dans l'eau, et ben, les larves vont finir par se reproduire. C'est comme ça que ça a envahi plusieurs pays. C'est à cause des pneus.
Le bouton d'un moustique tigre, ça ressemble à quoi?
Je pense que c'est le même qu'un bouton normal, de moustique normal, si on peut dire. Il y a plusieurs espèces qui piquent. Hein. Vous savez, c'est toujours les femelles qui piquent.
Oui.
Ah ben voilà.
Voilà.
C'est tout moi.
Ça me surprend pas.
C'est pour nourrir leurs œufs. Donc
pour nourrir mes œufs.
Mais finalement, ce que je retiens, Marc Giraud, de toute cette conversation passionnante, c'est que dans tous les animaux là, invasifs, envahisseurs, on s'est amusé avec le générique de la série américaine, ça fait un peu peur évidemment, le seul dont il faut vraiment se débarrasser, c'est celui-là, c'est le moustique tigre.
Alors, c'est le plus dangereux aujourd'hui, parce qu'il, pas à cause des piqûres, mais parce qu'il véhicule la dengue ou la chikungunya. Et d'autres maladies tropicales pourraient venir, comme le West Nile ou d'autres. Et ça, ça nous pend au nez, ça va venir. Hein. Donc, on va avoir quelques petits problèmes avec ce genre de choses. Celui-là, il faut faire attention.
Hein. Merci beaucoup, Marc Giraud. Vous reviendrez dans une prochaine curiosité pour nous raconter pourquoi votre chemise a été envahie par des girafes.
Ah oui, c'est pour la radio. Hein, c'est pour la radio.
Elle est très jolie, en tout cas. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Dans un instant, on révise, tiens, les bonnes manières. Un peu de politesse.
C'est pour moi, ça ?
Non, pour moi. Un peu de politesse dans un monde de brutes.
Vous écoutez RTL.